Egg, bonjour. Vous êtes le CEO de Sandblock. C'est la première ICO qui a été ou ICO qui a été réussie par une femme. Félicitations.
Merci.
Les ICO, il n'y en a pas encore eu beaucoup en France. En quoi a consisté la vôtre?
Alors déjà aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres ICO qui ont été faites par des femmes et je trouve ça aussi très bien. Il y a de plus en plus de femmes d'ailleurs qui s'impliquent dans l'écosystème blockchain. Et pour vous répondre à votre deuxième question, nous en fait, on permet la création d'actifs numériques et digitaux pour des entreprises qui sont actuellement principalement utilisées pour gamifier, remplacer les coupons et points de fidélité, et en fait permettre d'avoir un actif liquide qui circule au sein d'un réseau de consommateurs et de marques en liant à la fois des petits commerces et des plus grandes marques.
Qu'est-ce qui vous a amené, avant de créer cette entreprise, justement, à s'intéresser à ce secteur-là et à cette technologie? Qu'est-ce qui vous a dans votre cursus personnel?
Alors moi, la blockchain, ça fait un petit moment que j'en avais entendu parler. Et je me suis plus intéressée au sujet, disons, vers 2015-2016. En 2016, j'ai participé à un grand regroupement de la communauté Ethereum où j'ai rencontré Vitalik. Et puis, j'ai trouvé que le milieu était très stimulant. Il y avait des profils extrêmement variés. Et comme à ce moment-là, j'étais dans l'univers du marketing digital et qu'on travaillait justement sur ces sujets de fidélité. J'ai pensé intéressant en fait dans le concept que j'avais assimilé justement de l'utilité d'un token qui circule dans un réseau et qui va être valorisé selon son utilisation, de réfléchir à cette monnaie des marques qui est le cas par exemple pour les programmes genre Miles, Flying Blue, etc.
Alors, vous avez réussi cette ICO, je le disais. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir une ICO? Parce qu'il y en a quand même qui ont raté, il y en a quelques-unes, des spectaculaires. C'est quoi les ingrédients principaux d'une réussite d'une ICO? Moi, je connais la partie introduction en bourse, mais je ne connais pas cette partie-là.
Alors, je pense qu'une ICO, on voit souvent enfin, un aspect principal qui est la levée de fonds. Et je pense qu'il y a aussi toute la partie engagement et création de communauté. D'ailleurs, je pense qu'on va petit à petit switcher vers des modèles d'ICO sans levée de fonds. Parce que, en fait, un token, c'est un moyen très intéressant d'aller donner un asset à une communauté qui va ensuite l'utiliser, s'impliquer, le diffuser un message et le faire vivre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a développé, nous, une application pour engager notre propre communauté. Parce que quand on est dans le monde des ICO et de la blockchain, on connaît le principe des airdrops. L'airdrop, c'est on balance des tokens à plein de gens. Et concrètement, aujourd'hui, ça sert principalement à montrer qu'on a beaucoup d'utilisateurs sur Telegram. Et nous, en fait, on trouve ce mécanisme intéressant, mais on avait envie d'avoir des gens engagés, des personnes qui allaient répandre l'information du projet. Et donc, on a créé une application que maintenant on met en licence à d'autres ICO d'ailleurs. Qui permet en fait d'obtenir des stakes tout le long de l'ICO et de témoigner de son engagement, mais pas de façon ponctuelle, mais vraiment dans toute la durée du projet. Donc créer une communauté, une crypto-communauté, c'est très important. Ensuite, il y a tout l'aspect tokenomics. Est-ce que le token, est-ce qu'il y a des mécanismes en fait qui ont été réfléchis pour que le projet soit viable? Bien réfléchir à la réglementation. Donc aujourd'hui, on sait il y a deux types de tokens, les utility, les security. Donc adapter en fait sa communication notamment aux réglementations. Ensuite, le réseau, c'est très important. Bon, nous, on a fait un énorme roadshow aux quatre coins du monde. C'était un peu la période facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de conférences, donc c'était forcément des conférences qualifiées. Mais si j'avais un conseil, ce serait également de bien choisir en fait là où on va mettre son effort. Et enfin un autre conseil qui vient de mon expérience personnelle, c'est faut faire attention à ne pas suivre les modèles d'ICO passés. Moi quand j'ai fait mon ICO par exemple vers fin 2016, les investissements privés c'était considéré presque comme un scam et très très mal vu par la communauté. Un an plus tard, donc c'est rien un an, plus tard, c'était presque, si t'as pas d'investissement privé, ça veut dire que ton projet n'a pas été validé par des experts de l'investissement et le projet n'est pas viable. Donc on a complètement switché de mentalité et ça arrive très vite. Donc avant, parce que ça demande du budget quand même de faire une ICO, avant de commencer à se lancer dans ce process, il faut bien analyser le terrain et prendre son temps pour faire quelque chose d'efficace.
Dernière question, où vous en êtes aujourd'hui de vos développements? Est-ce que vous avez des projets qui se sont bien réalisés?
Alors, bah, comme je le disais, dans notre application qui va s'appeler Steakin, puisque le but c'est de gagner des steaks, donc on change le nom de Sunblock qui reste la boîte mère à Steakin. On a déjà une dizaine de clients, donc d'ICO qui sont venus sur la plateforme. On va continuer à développer cette offre avec des clients à la fois très crypto et plus institutionnels. Et ensuite, sur notre offre de fidélité pure, on travaille aujourd'hui avec principalement Havas. Et on réfléchit à différents types de solutions selon la typologie des clients et notamment plus récemment sur les clubs de foot.
Merci beaucoup Sarah Diane Haeg d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Bah, je vous en prie, merci à vous.